du coup, là encore une fois, hein, quel scénario on peut construire? Ces élèves-là ont particulièrement besoin que, quand on leur propose de faire une tâche en classe, etc., on le verbalise sous forme de responsabilité ou de mission. Vous voyez, ta mission aujourd'hui, c'est ça. Ou quand on leur demande d'être le tuteur d'autrui dans un domaine, c'est que je vous apprécie beaucoup parce qu'ils se sentent responsables et adultes. Vous voyez, vous allez avoir des enfants en classe qui, au contraire, vont vouloir maintenir un niveau un peu bébé, quoi. Ils sont dans vos pattes, quoi. Ils réclament des câlins, vous voyez, ils sont, voilà, c'est encore des bébés, on le sent. Et puis il y en a d'autres qui auront grandi un peu trop vite tout à la maison par rapport à la situation qu'ils vivent et qui ne vont pas accepter d'être renvoyés à un statut d'enfant. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je prenais l'exemple de la différence entre tu peux être fier de toi et je suis fier de toi. Ces enfants-là, si un jour ils se comportent bien et ils se comportent bien avec vous et vous voulez les féliciter, vous leur dites c'est bien. Ou vous leur dites aujourd'hui c'était très bien. D'accord ? En disant ça, vous vous positionnez vraiment comme l'adulte ou le parent, mais vous voyez, ça peut être en position haute. Je ne sais pas moi. Si je viens dans votre classe et que j'assiste à une de vos séances et que je vous dis « Oh, ce que vous faites, c'est très bien. » Vous voyez, pas si je vous dis « je suis en accord avec ce que vous faites. » Vous voyez, pas je me retrouve dans votre pratique. Mais si je dis « Ah, ce que vous faites, c'est vraiment bien. » Je me positionne en position haute. Vous voyez, qui je suis pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Eh bien, à chaque fois que vous dites à un enfant « C'est bien », vous le congratulez. Certes, il y a plein d'enfants qui sont très contents qu'on leur dise c'est bien. Mais il y aura ceux qui vont interpréter ce c'est bien comme une manifestation d'une relation asymétrique. Vous êtes en position haute, et peut-être en position haute, vous pouvez dire c'est bien. Et donc le lendemain, ils vous le font payer. C'est-à-dire que le jour où vous avez dit c'est très bien aujourd'hui, le lendemain, ils vous le font payer. Et alors là, ils vont vous montrer que non, c'est pas très bien. Là, ils vont vous montrer que c'est eux qui ont le pouvoir, vous voyez, de... Donc du coup, j'en reviens à tout à l'heure, hein. Avec ce genre d'élèves, je crois qu'il faut remplacer un « c'est bien », il faut les rassurer au plan narcissique, remplacer un « c'est bien » par « tu as été capable de ». Aujourd'hui, tu as été capable de, aujourd'hui, tu as su, là, tu nous montres que. Et puis aussi avoir un discours autour du « nous » plutôt que du « je ». Très souvent en classe, on entend « montre-moi »,« dis-moi », remplacer ça par un « montre-nous »,« dis-nous », « regarde tes camarades quand tu parles », vous voyez, quelque chose de symbolique aussi qui fasse que la parole circule, non seulement parce que les élèves vous répondent quand vous posez des questions, mais elle circule d'un point de vue symbolique, des regards, on fait attention à ce que dit l'autre, etc. Et ça, souvent, ça s'arrête au milieu du game, dans les classes, de mon point de vue. Hein. C'est-à-dire que très souvent, on a quelqu'un qui, évidemment, essaye de faire circuler la parole, mais qui valide toujours, vous voyez, qui dit plutôt « dis-moi », plutôt que « dis-nous », est-ce que tu peux me lire ?» plutôt que « est-ce que tu peux nous lire ?» Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément qui en fait essaye de créer de l'interaction, mais elles sont quand même très centrées sur lui. Hein. Parce qu'on a cette culture du maître de la classe, donc du maître face aux élèves, une culture un peu transmissive quelque part. Hein. Et donc dans notre discours, ça s'en ressent. Et ces élèves-là, ils ont besoin de se décentrer de vous. Donc plus vous aurez un discours du type « dis-nous, explique-nous, le groupe a besoin de toi, vas-y, dis à un tel ce que tu viens », vous voyez, plus vous aurez comme ça un discours qui va orienter la parole vers les autres, et moins l'élève sera dans une relation d'extrême dépendance, qu'elle soit nocive ou pas quelque part, parce que parfois il s'inscrit dans des relations nocives, avec le reste du groupe. Mais pour un élève comme Samuel, qui manifeste comme ça, ou qui vit à la maison des situations qui ne sont pas de son âge, très souvent, ces élèves-là fonctionnent mieux dans un discours de responsabilisation que dans un discours de culpabilisation ou de renvoi au fait qu'ils soient petits, parce qu'il est encore petit comme enfant. Et maintenant, se pose également la question du contenant, c'est-à-dire que la classe est un contenant physique, mais ce n'est pas forcément un contenant psychologique. En ce sens que l'espace classe peut générer une angoisse et faire qu'on est complètement en vrac. Alors que normalement, l'espace classe devrait nous calmer. Vous voyez, les enfants habituellement, on arrive le matin, on se calme, on se pose et on commence. Vous voyez, ça veut dire que la classe, c'est un espace où ils sont capables de se calmer et de se poser. Mais il y a ces élèves comme... c'est Urias, c'est ça? Urias? Ces élèves comme Urias ou comme Samuel, ou au départ d'ailleurs comme... comme Inès ou Djibril, hein, je crois que là, c'est pas exclusif, vont avoir du mal à envisager l'espace physique comme un contenant psychique. Alors, si l'élève est autiste, c'est encore plus marqué parce que c'est bien sa pathologie. Et du coup, tout ce qui est interaction avec autrui, tout ce qui est nouveau dispositif, changement d'état, vous voyez, tout ce qui est un peu original, ou tout ce qui génère de l'agitation ou des interactions entre élèves, ça va plus l'angoisser qu'autre chose. Et donc, ce sont des élèves qui, par exemple, peuvent être à peu près cadrés quand ils sont face à vous, devant, vous voyez, avec presque deux dans les yeux, quoi. Mais qui vont être beaucoup plus agités si vous proposez un petit travail de groupe, un atelier, vous voyez, des choses comme ça où c'est un peu plus libre. Et du coup, par rapport à ça, je crois qu'on peut mettre en place peut-être avec ce type, quand on a ce type d'élèves dans la classe, des interactions qui soient très symboliques en termes de socialisation, mais très régulées au niveau physique. Pour vous en parler, je vais prendre un exemple d'une de mes recherches. La première fois que j'ai atterri, si je puis dire, dans une classe d'ITEP, pour y mener toute l'année, le vendredi, une heure de géométrie. Ils n'étaient que 5, les élèves. Hein. Ils n'étaient que 5, et il y avait l'enseignante habituelle, et il y avait moi. Ils avaient entre 10 et 12 ans. Ils sont rentrés dans la classe. Au bout de 10 minutes, bagarre généralisée, où on était complètement débordés, à essayer de faire en sorte qu'ils ne s'entretuent pas, qu'ils ne se fassent mal physiquement. Et c'était très compliqué. Et en fait, c'était quoi le déclencheur? Le déclencheur, c'est que l'enseignante les a mis à des petites tables où ils devaient travailler à trois. Enfin, deux à trois et puis un groupe de deux. Et où là, j'ai vu que le fait d'être l'un en face de l'autre, c'était insupportable.